Il est 8h sur Inter. Et merci d'écouter Inter, le journal Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Planète de Marseille, quelque chose de pourri. L'OM, leur opium, leur folie. Scène de chaos hier au centre d'entraînement. Des centaines de supporters ravagent le bâtiment, affrontent les forces de l'ordre. Un joueur frappé, 7 policiers blessés. Et le match face à Rennes, reporté. Dans l'actualité aussi, la foule hier dans les magasins des grands centres commerciaux à quelques heures de la fermeture pour un mois. L'appel des policiers pour plus contrôler le respect des règles sanitaires. Il faut plus de moyens, disent-ils. Et puis aussi cette nouvelle journée de manifestation sous tension des pro-Navalny en Russie. Une jeune Barbara qui se la joue piaf pour représenter la France à l'Eurovision. Et puis Grand Prix d'Amérique aujourd'hui, portrait dans Esprit Sport d'un homme qui murmure à l'oreille des chevaux.
Et puis à partir de 8h20, notre invité, le professeur Frédéric Tanguy. On va parler de vaccins avec lui ce matin. Frédéric Tanguy est le chef du laboratoire d'innovation vaccinale à l'Institut Pasteur.
France Inter.
Bâtiments saccagés, arbres incendiés, affrontements avec les forces de l'ordre, ça brûle à Marseille, dans le ventre de l'OM. Des centaines de supporters en furie hier après-midi à la Commanderie, le centre d'entraînement. Un joueur a même été frappé, tout ça pour du foot. Des mauvais résultats, un président contesté, un déchaînement de violence à quelques heures du coup d'envoi face à Rennes. La rencontre a dû être reportée in extremis. Reportage Bruno Blanza, France Bleu Provence.
Le centre d'entraînement est totalement plongé dans la fumée par les dizaines de fumigènes allumés. 300 supporters sont vêtus de noir, leur visage est souvent dissimulé. On assiste à des scènes de chaos quand ils parviennent à entrer de force dans le centre d'entraînement. Des actes condamnés par la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri.
C'était vraiment une attaque en règle qui a visé d'abord les policiers qui sécurisaient les entrées de ce site, attaqués. D'emblée, les supporters, si on peut les appeler comme ça, sont rentrés dans le site. Les joueurs, le staff ont été pris à partie. Des locaux ont été vandalisés. Le bus de l'équipe a été caillassé. Et des effets personnels des joueurs ont été volés.
Le défenseur de l'OM, Alvaro González, est même touché par un projectile. Beaucoup de supporters condamnent cette violence, mais pas tous.
Je la comprends, cette colère. Ce qui se passe en ce moment, c'est compliqué. On a l'impression de ne pas être respecté par la direction. Ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est grave, mais c'est à l'image de la situation. Il faut secouer un peu la direction et les joueurs. Un peu beaucoup même, c'est justifié.
Dans un communiqué, l'OM condamne avec force cette inacceptable attaque, parle de plusieurs centaines de milliers d'euros de dégradation et va porter plainte. Principale cible de cette colère, le président marseillais Jacques-Henri Hérault confirme qu'il ne démissionnera pas, encore moins après cet après-midi surréaliste.
Des événements inacceptables. Nous ne sommes que des joueurs de foot, s'indigne de son côté le gardien et capitaine de l'OM, Steve Mandanda. 19 supporters étaient hier soir toujours en garde à vue.
Depuis hier soir et pour au moins un mois, les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés doivent donc rester fermés.
À défaut de confinement, c'est l'une des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement. Près de 400 centres commerciaux concernés dans toute la France. Les magasins de bricolage, de vêtements, de décoration qui font partie de ces grandes galeries marchandes ont donc baissé le rideau hier soir. Scène de cohue à quelques heures de la fermeture, comme ici au centre commercial Muse de Metz. Natacha Cadour a assisté à la bousculade.
Armée de son talkie-walkie et de sa bonne humeur, Nathalie, vendeuse en vêtements, gère la circulation entre les deux étages du magasin.
S'il vous plaît. Vous pouvez y aller, madame, c'est bon.
Bonjour, bienvenue.
La routine pendant la crise sanitaire, mais avec l'annonce de la fermeture, les clients se précipitent.
On a des clients nerveux qui rentrent sans qu'on leur dise d'entrer. Et quand on leur dit non, ils rentrent quand même. Il faut vraiment qu'on fasse face à tout, quoi.
Même constat pour Eda, une cliente qui ne comprend pas cette annonce soudaine.
L'annonce de fermeture, ça affole trop les gens. Ça les oblige à venir consommer, pas forcément parce qu'ils ont besoin, mais pour se dire qu'il faut le faire, après on pourra plus le faire. Moi, je suis venue pour rendre un article. Je suis pas rentrée dans plein de magasins parce qu'il y a la queue. Parce que j'ai pas besoin, en fait. Les gens n'ont pas besoin, mais ils le font quand même.
Devant les étalages de t-shirts, Abdel, un peu sonné par toute cette agitation, entre son travail et le couvre-feu, il ne pouvait pas venir plus tôt.
Si j'aurais le choix, oui, j'aurais laissé tomber, mais vu que là, ça va fermer et tout ça, je pourrais plus faire mes courses.
Chantal, qui pensait acheter ses cadeaux d'anniversaire en semaine, à l'heure du déjeuner, a dû accepter ce bain de foule et elle n'est pas convaincue.
C'est une folie. On est carrément collés l'un à l'autre. On ne peut pas voir les vitrines. Les gens font la queue. C'est une grosse bêtise. En pleine semaine, on n'aurait pas ce cirque qu'il y a là en ce moment.
Un dernier sursaut avant le silence dans les galeries jusqu'à nouvel ordre.
Reportage Natacha Cadour, France Bleu, Lorraine Nord. Des centres commerciaux fermés, mais pas complètement. Les hypermarchés, les boulangeries ou encore les pharmacies de ces galeries marchandes restent ouverts. Ouvertes aussi les zones d'activité en plein air. En revanche, la jauge de clients dans tous les commerces de plus de 400 mètres carrés, elle a été resserrée. Une personne tous les 10 mètres carrés désormais, c'était 8 jusqu'ici. Il faudra aussi faire des aménagements dans les rayons les plus fréquentés, fruits, légumes par exemple, aux caisses également. Le gouvernement prévient qu'il y aura une multiplication des contrôles de police. Contrôler aussi plus que jamais le respect du couvre-feu, les fêtes ou les restaurants clandestins. C'est en tout cas le souhait du gouvernement que les dérives de quelques-uns ne ruinent pas les efforts de tous, a résumé Jean Castex vendredi. Mais tout ça, ça pèse lourd sur les épaules des forces de l'ordre. Il va falloir des moyens, dit Jean-Christophe Couvi, secrétaire national d'unité SGP Police.
Aucune consigne n'est redescendue de Beauvau. Donc pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est très mesuré parce qu'on ne pourra pas être sur tous les fronts. On fait ce qu'on peut avec les effectifs que l'on a et on met toujours de la bonne volonté. Néanmoins, voilà, on tire depuis très longtemps la sonnette d'alarme. Il y a un problème, si vous voulez, de ne pas tomber dans le sur-régime. C'est-à-dire pour l'instant, on travaille à flux tendu. Comme tout fonctionnaire, enfin comme toute personne qui travaille, forcément on a des jours de congé. Et donc ça voudrait dire que pour réaliser certaines missions, il faudrait qu'on annule ces jours de congé, ces repos, afin de réaliser justement ces contrôles couvre-feu. Donc effectivement, on peut pas être au four au moulin, on a nos missions quotidiennes, on a ça qui charge la barque, et c'est un peu compliqué, voilà, à tout gérer. Donc on fera, ça sera peut-être pas une mission prioritaire, parce que les missions prioritaires quand même, c'est sécuriser les citoyens tous les jours dans les actions quotidiennes, et dans l'anticriminalité.
Se donner encore un peu de temps pour éviter le confinement. Pour ça, il faut éviter le brassage de population et la France ferme ses frontières, interdit depuis hier minuit d'entrer et de sortir de l'Union européenne, sauf motif impérieux. Le texte mentionne la mort d'un proche, une reprise d'études ou bien encore une urgence médicale vitale. Les attestations sur l'honneur sont à télécharger sur le site du ministère de l'Intérieur avant d'embarquer. Pour mener la bataille contre le confinement, Emmanuel Macron en appelle à la mobilisation de chacun. Tweet laconique hier soir. J'ai confiance en nous. Les heures que nous vivons sont cruciales. Faisons tout pour freiner l'épidémie ensemble. Fermez les guillemets. Si le président a pris cette décision, c'est aussi chiffre à l'appui. La circulation des variants augmente moins vite que prévu. Les contaminations sont en très légère baisse. Sans doute les premiers effets du couvre-feu. Peut-être pourrons-nous éviter cette nouvelle vague, dit le ministre de la Santé ce matin au journal du dimanche. Le confinement n'est pour autant pas exclu, prévient Olivier Véran. À l'échelle européenne et en bref, autant de situations différentes que de pays. Quand l'Allemagne serre la vis et ferme par exemple ses frontières avec le Royaume-Uni ou le Brésil, l'Italie lâche du lest. Un répit à Rome où les musées du Vatican vont rouvrir demain après 88 jours de fermeture. Un peu d'espoir aussi aux États-Unis. Les hospitalisations et les contaminations sont en baisse depuis 2 semaines. À relativiser, il y a toujours plus de 3000 morts par jour. Les États-Unis où le masque devient enfin obligatoire dans tous les transports publics à partir de mardi. Et puis ça y est, ils y sont. Les experts de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ce matin en visite sur le marché de Wuhan en Chine aux origines de la pandémie. Les Russes seront-ils autant mobilisés que le week-end dernier? Mouvement historique de par son ampleur géographique. 3500 militants arrêtés, mais l'opposant anticorruption Navalny, toujours emprisonné, appelle à nouveau ses partisans à descendre dans les rues aujourd'hui. À Moscou même, rassemblement prévu sous les fenêtres du FSB, les services de sécurité mis en cause dans la tentative d'empoisonnement de l'opposant. Claude Brouillot est sur place pour Inter.
Les barrières en fer sont déjà stockées par dizaines devant le bâtiment principal et tout autour de la place de la Loubianka où depuis 3 jours les gardes ont été renforcés. En décidant d'essayer de se regrouper ce midi devant le siège des services de sécurité à Moscou, les soutiens d'Alexeï Navalny veulent cibler l'une des principales structures de force sur laquelle s'appuie le Kremlin et ainsi stigmatiser son rôle dans l'empoisonnement de leur leader. Il est question aussi pour eux, bien que privés de leurs principaux responsables assignés à résidence, de prouver aussi qu'ils ne craignent ni l'intimidation des perquisitions, ni les risques de répression le jour des manifestations. La seule interrogation qui domine dans les rangs des opposants à Vladimir Poutine reste de savoir si le mouvement enclenché il y a une semaine gagnera en impact ou restera cantonné aux quelques dizaines de milliers de manifestants, même répartis encore dans une centaine de villes du pays. Pour l'instant, la grande majorité des Russes ne s'implique pas dans ce bras de fer, mais l'influence de la protestation, largement diffusée et suivie sur les réseaux sociaux, oblige le pouvoir à une forme de retenue dans ses réponses, au risque de faire grandir le nombre des mécontents. Moscou, Claude Brouillot, France Inter.
Échange Europe contre Asie. Un mois après sa sortie du marché commun, un an après le Brexit, le Royaume-Uni va officiellement demander demain son adhésion au traité commercial transpacifique. Par ailleurs, Londres ouvre grand ses portes aux ressortissants hongkongais. À partir d'aujourd'hui, possibilité pour eux d'avoir des visas longue durée avec l'espoir d'une naturalisation. Une façon pour l'ancienne puissance coloniale d'offrir une porte de sortie à tous ceux qui veulent échapper à la répression chinoise.
En France, c'est un bilan plutôt positif. 2 ans après la mise en place de l'accompagnement des personnes radicalisées.
Sur les 120 personnes suivies, aucune n'a récidivé en matière de terrorisme. Rapport de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Ce programme d'accompagnement des individus radicalisés, c'est un suivi psychologique, social, d'insertion aussi, déployé dans 4 centres, Paris, Marseille, Lille et Lyon. Les détails avec Margot Steve.
Si l'on regarde en termes de récidive, le bilan est clairement positif. Sur les 120 personnes suivies depuis 2018, on ne compte aucun passage à l'acte terroriste. Les seuls cas de retour en prison concernent des faits de droit commun. Un seul bénéficiaire a été arrêté pour des menaces d'attentat, mais il n'était à l'époque qu'en période d'évaluation et donc pas encore pris en charge par le programme. Mais l'état des lieux est plus compliqué à faire que cela. D'abord parce qu'il est très difficile d'évaluer la radicalisation, surtout sur des personnes expertes dans la discipline. S'ils nous disent que c'est fini, qu'est-ce qu'on en sait ? Résume un encadrant interrogé dans le rapport. Et puis avec seulement 120 personnes prises en charge, il est difficile de faire des généralités. L'autre limite, c'est le profil des personnes prises en charge par le programme PER. Il ne s'adresse pour l'instant qu'aux cas les moins inquiétants et donc les moins susceptibles de passer à l'acte.
Margot Steve, Gabriel Fortin, mis en examen et écroué hier pour les meurtres d'une DRH et d'une conseillère Pôle emploi jeudi à Valence et en Ardèche. Le journal du dimanche croit savoir que deux lettres d'adieu adressées à sa mère et à son demi-frère ont été retrouvées à son domicile. Des lettres qui laisseraient supposer que l'ingénieur sans emploi avait l'intention d'en finir après sa cavale meurtrière. Enfin, selon André Manoukian, elle est une néo-Édith Piaf. Et c'est elle que la France envoie à l'Eurovision. Cadeau.
Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu, j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence.
Voilà. Barbara Pravi, 27 ans, élue hier soir par le public et un jury professionnel. Sortez votre agenda, Eric, lancez le compte à rebours. Je sais que vous êtes complètement fan. La finale de l'Eurovision, c'est le 22 mai à Rotterdam.
Moi, perso, je passe mon tour pour l'Eurovision. À 8h11.
Et... Contre elle.
Bah, j'ai rien contre elle du tout. Ah non, je parlais de la soirée Eurovision, je passe mon tour. Allez, à 8h12. Oui, bon, on en parlera à la cafette, Patricia.